si je peux me permettre. Oui. C'est une question centrale, pas seulement sur ces questions d'ailleurs qui tournent autour de symbolisations particulières, mais la question de la violence qu'on s'autorise à employer, c'est une question centrale. Pour le théâtre, c'était une question centrale en effet pour Brecht. Est-ce que l'art est autorisé à faire preuve de cruauté parce qu'on sait bien que la transformation du monde implique en effet qu'on fasse en tout cas un tour de force, une violence à ce qui est, à ce qui... Donc c'est pas même dans les cas, je dirais, où on n'est pas dans les le traitement des thématiques les plus noires. De toute façon, cette question de la violence qu'on s'autorise ou pas à introduire dans la formalisation, c'est une question qu'aucun artiste ne peut éviter. Hein.
Enfin, oui, ça je sais.
Ouais.
Mais à ce moment-là, je crois que quand j'en parlais avec des écrivains, je me disais, c'est important que tu t'auto-censures aussi pour toi-même, parce qu'il ne faut pas oublier que la censure, elle a aussi sa place dans la psyché.
Mais bien sûr.
De toute façon, on se censure de toute manière, on est censuré de toute manière. Non, c'est dans l'idée de la peur d'être condamné par la vindicte, par exemple. C'est ça qui est une censure dangereuse, en fait. Et en plus, par rapport à l'idée de la cruauté, par exemple, par rapport à la violence, j'ai pas le sentiment, j'arrive pas, je cherche à avoir le sentiment, et on en a parlé tout à l'heure avec la pièce de Lieder, j'ai pas le sentiment que la création artistique fasse preuve, pour reprendre votre expression, de cruauté, mais montre la cruauté, de la cruauté qui sévit, qui détruit. Enfin, il y a une vocation quand même artistique à justement changer le monde. Changer le monde, c'est ça, il faut bien le montrer. Mais faire preuve, je modulerais ça, moi. Faire preuve de cruauté vis-à-vis du public, par exemple. Je n'ai pas le sentiment que si je vais voir une pièce où il est question de violence...
Brecht, je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Je pense qu'il y avait à dessein des actes théâtraux qu'on pouvait qualifier de cruels. Alors, pas cruels au sens littéral, hein, évidemment. Oui. Mais qui étaient, idéologiquement, des actes comme ça de... impressionnant pour le public, ce qu'il appelait la pédagogie de l'effroi, etc. Donc, je ne sais pas si on peut... Enfin, je ne sais pas comment vous les qualifierez, mais je crois quand même que la dimension de choc, la dimension de trouble et même de malaise était présente. En fait.
Oui, l'importance d'être d'accord, par exemple, l'importance d'être d'accord, mais ça enjeu. Enfin,
oui, mais moi, à partir du moment où je suis au théâtre, au cinéma ou en train de lire un livre, je ne suis pas dans la vie. Je me sens pas menacée. Parce que la menace.
Enfin, moi, j'arrive pas à être aussi, aussi simple avec ça. Peut-être parce que c'est une question qui est devenue obsédante pour moi. Parce que, par exemple, moi, sur le plan politique, je me demande aujourd'hui si, en effet, les chemins de la transformation du monde doivent incorporer une part de violence, en fait. Et donc, parce que je sais que jusqu'à présent, en tout cas le schéma révolutionnaire, évidemment, comportait cette idée qu'à un moment, il fallait qu'on soit capable, qu'on ait le courage d'une violence nécessaire. Et c'est pas du tout au nom d'une peur ou d'une absence de courage que je me pose la question, mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est la voie encore, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on trouve la possibilité de transformer le monde dans un processus qui soit le plus pacifique possible? Du coup, la question de la violence symbolique que je m'autorise à employer est une question qui est devenue centrale. Si bien qu'avec les jeunes, par exemple, de banlieue, il était évident pour moi que je n'allais absolument pas leur proposer d'être dans une figure de la colère ou de la... qui fasse d'eux les vecteurs comme ça d'une... qui fasse d'eux, comment dire, les corps qui répercuteraient la violence qui leur est faite. Et tout de suite, je les ai projetés dans des figures plutôt angéliques et burlesques. Ouais. Mais parce que c'est des questions pour moi qui sont devenues.
Oui, mais c'est pas ça, c'est pas exclusif. Parce que...
Non, c'est pas exclusif. C'est juste que je me dis, bon, mais c'est parce que je me dis, est-ce qu'on est réellement épargné de la violence en art quand l'art décide qu'il a à faire violence à la psyché. Enfin, je suis pas si sûre que l'idée qu'on soit dans un univers fictionnel ou protégé fasse qu'on est protégé d'une violence. Enfin,
tout le monde ne l'est pas de la même manière.
Oui, oui. Puis après, ça dépend aussi de quel type de violence. Parce que quand tu parles de cette violence symbolique à laquelle tu as réfléchi, c'est une violence qui était en contrepoint, par exemple, par rapport à un horizon d'attente. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi affaire à énormément d'œuvres qui vont dupliquer une violence à laquelle on est confronté et qui vont se contenter de cette espèce de myopie ressassée dans laquelle on nous plonge. Et combien on a vu d'œuvres aussi qui jouent sur un principe d'immersion, vivez la vie des vrais sans-papiers, courez autour du musée de l'immigration et enfermez-vous dans un conteneur. Enfin, moi, j'ai fait une pièce, j'ai fait. Parce que vraiment, c'était le présupposé idéologique de la pièce, c'était vivez cette expérience, faites-la. Ben, je trouve que là, pour le coup, c'est une violence illégitime dans le sens où elle ne fait que reconduire une violence qui existe déjà, et même pire que ça, elle en fait une forme de plus-value marketing qui est celle de l'alibi de la vraie expérience, de la même manière qu'on trouve aujourd'hui dans la télé-réalité, la logique du...
participatif.
Exactement, c'est une vraie victime qui vous parle, et là vous allez vivre la vraie expérience.
Et là, on explique toute mise à distance.
Mais là, on n'est pas dans l'art, on est dans le réel, on reproduit du réel.
Ouais, complètement.
Ça, c'est dangereux. Là, on peut se sentir menacé de la même manière que sont menacés et à qui ça fait beaucoup de mal, des gens qui, par exemple, sont dans la sidération après l'attentat, par exemple, les attentats, et qu'ils se mettent à regarder en boucle, assis dans leur salon, les télés qui, je ne sais plus, là, il y a les télés que des infos, là, c'est ça, et que c'est répétitif, et que cet effet de sidération, il engendre une angoisse où il n'y a plus moyen de dormir, plus moyen de manger, etc. C'est-à-dire que là, ils sont... parce qu'il y a une vraie menace, parce que c'est le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'art dans la réduplication du réel. Enfin, si j'entends
mais ça, de, vous le mettriez du côté de l'art, Salaud, Pasolini, vous le mettriez...
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui, donc en fait, c'est sur ces œuvres-là, en fait, hein, qu'ils choisissent, et par une formalisation très, très consciente, très maîtrisée, quand même, d'être du côté de la cruauté, en fait.
Oui, mais alors justement, moi, Salaud de Pasolini, quand j'ai dit tout à l'heure, à 20 ans, ça m'a bouleversée, mais je suis quand même restée dans la salle de cinéma. J'aurais pu sortir.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'était que...
J'avais le choix.
Je comprends qu'aujourd'hui, enfin, et toujours, l'artiste se pose la question de savoir si c'est le, s'il doit le faire et si c'est le bon chemin, en fait, voilà.
Oui, c'était juste mais c'est ça bien qu'il se pose la question. Oui. Mais ça, c'est en relation avec son intime à lui.
C'est non, son intime et la situation historique aussi.
Oui, mais pas en fonction de censeur.
Non, non, bien sûr.
Non, non, là, on est dans l'auto. On est dans l'autocensure. Oui, on l'auto-censure. Parle de l'autocensure. Mais voilà. Non, pour revenir aux censeurs, et je vais terminer là-dessus, moi, je les accuse vraiment de se réclamer du bien et de la morale dans un mensonge absolu, quoi. Ils mentent en disant cela. Ils mentent vraiment. Et il s'agit effectivement de leur signifier qu'ils mentent. C'est-à-dire que ce que je propose, par exemple... voilà, ils disent qu'à raison, ils prétendent qu'ils protègent les enfants, mais c'est faux parce qu'en leur mentant, et en tant que psy, je le sais bien, qu'en mentant et en construisant des secrets de famille, par exemple, on peut abîmer effectivement plein de générations après. Moi, je pense qu'ils ne leur laissent en héritage que des cadavres dans des placards. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors qu'en fait, la vocation artistique consiste effectivement à exhumer les cadavres des placards. Il ne s'agit pas que ça reste pourrir là pendant des siècles et des siècles, quoi. C'est ça le changement du monde aussi. Si on veut, il faut effectivement enterrer ces cadavres-là et ne pas les laisser dans les placards. Moi, je pense que les censeurs, ils font ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, ils affirment qu'ils protègent les enfants et les adolescents, mais en fait, ils les assujettissent à une domination qui interdit de penser. Il les livre en pâture à la peur, et je suis désolée, mais la peur est en train de gagner. Moi, je vois mes étudiants ont peur, alors qu'ils sont brillants, ils sont intelligents, ils sont subtils, c'est des créateurs, c'est des étudiants en psycho, mais je sais pas, c'est des créateurs. Si, il y en a un qui m'a envoyé une petite. Je leur fais faire des jeux de rôle où je leur demande de ridiculiser les psys. Comme ça, une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux choses sérieuses. Mais c'est important parce que c'est cathartique, cette histoire-là. Et puis ce qui est marrant, c'est ça leur a pas suffi le truc dans le cadre du TD. Pendant la session, la période qu'ils ont pour réviser leurs examens, ils ont filmé des scénettes et ils me les ont envoyées par email. C'est pas génial ça? Ils sont incroyables, quoi. Ils ont peur. Pourquoi ces gens-là, ils ont peur? Ils ont tout ce qu'il faut pour effectivement changer le monde et le faire et le construire et tout ça. Eh bien, je pense qu'effectivement, la censure, telle qu'elle s'exerce actuellement, telle qu'elle brandit des menaces sur les artistes, ne fait qu'entretenir cette peur. C'est tragique, il faut vraiment lutter contre, quoi. Moi, je les accuse de briser les rêves. Voilà. Même si on parle de cruauté, hein, le rêve, il va surgir de quoi ? D'un désir profond et inconscient, le plus souvent, de toute façon, le moi, il veut sortir triomphant d'une expérience tragique. Quand on a envie, on vit des attentats, qu'on a très peur parce que c'est arrivé en vrai, qu'il y a des gens qui sont morts, des centaines de personnes qui ont été blessées, qu'est-ce qu'on veut après ça? Eh bien, on veut effectivement construire un monde meilleur. Ben, je veux dire, j'ai l'air de dire ça, ça a l'air d'être une vieille bleuette des années 70, mais je suis désolée. Non, c'est important. Et pour construire un monde meilleur, ben, s'il n'y a pas le rêve, on ne va pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Donc moi, je les accuse, les censeurs, oui, directement, vous brisez les rêves des enfants, donc vous ne les protégez pas, vous les abîmez. Voilà. Et ainsi de suite, on peut augmenter la litanie comme ça des aides. Je peux faire une longue liste des chefs d'accusation. Je vous laisse le faire.
Ça me fait penser juste à un truc récurrent qui revient, une espèce d'ironie récurrente qui revient de la part souvent des hommes politiques, d'ailleurs, qui dit « mais on ne vit pas dans le monde des bisounours ». Ça revient tout le temps. Et je pense à ce que tu dis sur les adolescents qui ont ce rêve d'authenticité et ce rêve d'un monde de justice. Et à ce désir-là, on rétorque « mais on ne vit pas dans le monde des bisounours ». Comme si on ridiculisait ce désir et ce rêve de
justice. Des gamins de 3 ans.
Oui, oui, c'est ça. Et on infantilise la personne.
Absolument.
Je repense à une autre...
C'est pervers.
Voilà, une autre chose aussi qui est sur les mécanismes peut-être d'autocensure. J'entends souvent, on a souvent reçu aussi des gens, des auteurs, la jeune public, tout ce qui est théâtre jeune public, etc. Et souvent, ils nous ont dit, et finalement, ça va à l'inverse de ce que toi, tu exprimes sur l'adolescence. Alors, jeune public, ça concerne aussi l'adolescence. Moi, j'ai entendu de la part des gens qui travaillent sur le jeune public, qui défendent le jeune public au théâtre, dire, il y a la différence entre le tout public et le jeune public, c'est que l'écriture jeune public n'a pas le droit de désespérer le spectateur ou le lecteur. Voilà. Et toi, j'ai, pour avoir lu ton livre sur qui a peur de la littérature ado, tu dis exactement le contraire.
Absolument. Et je confirme.
Oui. Il faudrait que tu rencontres les gens du...
Mais j'en rencontre tout le temps, puisque je rencontre aussi des écrivains qui disent ça.
On l'a entendu hier par le député qui lui-même a dit à un moment quand même...
Il faut rester dans le jubilatoire. Il faut rester dans
le jubilatoire.
Ce qui a été.
Qu'est-ce que tu disais sur la
rue de la On avait parlé sur. Déjà une question chez Grimm. L'expurgation. Enfin, c'est pas ça. De deux contes, comment les enfants ont joué au boucher, des meurtres d'un enfant sur un autre, qui ont été expurgés par Grimm suite à une lettre de Harry von. Enfin, un de ses camarades à l'époque, et c'est ça l'enjeu. C'est est-ce que ce type de conte horrible, enfin ou très tragique, va et Grimm répond. Ce sont des contes qui m'ont permis à moi de ne pas faire certaines choses. Ma maman me racontait ça. Et conte tiré d'un fait divers. Merci beaucoup. Peut-être on va laisser la parole justement à la salle.